I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à vous et bienvenue à tous en direct, bien sûr, pour Midi News avec cette visite sous haute surveillance, celle du président Emmanuel Macron, qui va présenter dans quelques instants un plan eau à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes et avec un comité d'accueil, comme vous le voyez sur place, au sujet notamment de la réforme des retraites. Et déjà, au moins deux manifestants interpellés nous seront bien sûr sur place. Quelle suite à Sainte-Soline après les scènes de chaos? La bataille devient politique entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la France Insoumise. Polémique sur l'intervention des secours, polémique sur l'utilisation de certaines armes. Le climat politique et social ne cesse de se tendre. On en parlera également avec nos invités. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes. Le chef de l'État présente aujourd'hui son plan eau dont l'objectif est d'améliorer la gestion de l'eau. Stéphanie Rouquier, vous êtes à Savines-le-Lac où on attend le chef de l'État dans une ambiance plus que tendue.
Oui, effectivement, là pour l'instant, vous le voyez précisément, maintenant c'est calme, mais un peu plus tôt il y a eu quelques tensions, ces manifestants qui voulaient dignement, selon leurs termes, accueillir Emmanuel Macron, eh bien, ils s'étaient rassemblés, ils s'étaient regroupés en plein milieu de ce carrefour, au fond, pour essayer de bloquer le passage et la venue d'Emmanuel Macron. Alors bien évidemment, les gendarmes mobiles et les CRS les ont repoussés, des gaz lacrymogènes ont été tirés. Deux manifestants ont été interpellés, mais pour l'instant, eh bien, vous le voyez, ils sont regroupés, ils sont nassés sur ce petit parking privé. Des manifestants qui m'ont expliqué, bien évidemment, que hors de question pour eux de voir Emmanuel Macron ici, chez eux, venir parler de toute autre chose que la réforme des retraites. L'eau, pour eux, est important, mais hors de question de passer le sujet de la réforme des retraites, hors de question qu'elle reste active.
Merci beaucoup Stéphanie Rouquier en direct de Savines-le-Lac. Emmanuel Macron qui effectue donc aujourd'hui son premier déplacement en France depuis deux mois à deux pas du lac de Serre-Ponçon, symbole de la forte sécheresse qui sévit actuellement dans le pays. Écoutez justement Xavier Cousseau, il est responsable du centre nautique au lac et nous explique ce qu'il attend de cette visite.
Ce qu'il peut nous apporter, ça va être de comprendre notre situation, notre position, et ça va être de nous apporter une aide, puisque le lac de Serre-Ponçon, c'est le domaine public, et bon, ça appartient à l'État, de nous permettre de pouvoir travailler en sachant que les conditions du niveau de lac seront de plus en plus basses, et de nous permettre d'aménager les plages un peu plus basses pour qu'on puisse travailler quand le lac sera des fois peut-être à moins 15 ou moins 20 mètres, qu'on puisse avoir des installations qui soient adaptées à ce niveau du lac et puis qui nous soutiennent.
La note risque d'être salée après les dégradations survenues sur le pont de Saint-Nazaire. La remise en état devrait coûter environ 800 000 euros. Le département de Loire-Atlantique précise dans un communiqué que plusieurs équipements ont été détruits ou sont hors service. Dégradation provoquée, pour rappel, par des manifestants mobilisés contre la réforme des retraites. Alors qui doit payer la facture? On vous a posé la question.
C'est pas normal, mais je me demande qui d'autre pourrait payer.
Je pense plutôt que ce soit l'État qui doit payer, mais c'est vrai que c'est triste, mais pour l'instant, il n'y a que cette solution-là.
Ce n'est absolument pas normal, ce n'est pas à nous de payer, ce n'est pas à l'État de payer. Moi, si j'aurais une solution, il faut arrêter les Black Blocs et nous n'aurons plus de dégâts.
C'est aux manifestants de payer, ils ont récolté beaucoup, il me semble, plusieurs millions d'euros. Et ben, il faudrait se servir de ces millions d'euros pour rembourser tous les dégâts causés par les manifestants.
À Marseille, la gare Saint-Charles a été occupée par des opposants à la réforme des retraites. Les manifestants ont bloqué toutes les voies. Le trafic doit reprendre progressivement dans la journée, mais des retards sont encore à prévoir dans les prochaines heures. Et puis l'état de santé du pape inquiète. Il a été admis à l'hôpital hier pour une infection respiratoire, mais le Vatican a donné des nouvelles rassurantes ce matin. Les précisions d'Emeric Pourbet.
Pour l'instant, en tout cas, les informations de la presse italienne, qui connaît bien évidemment ce qui se passe au Vatican, jugent la situation pas préoccupante. C'est sa deuxième hospitalisation en 10 ans. Il a 86 ans, donc ce n'est pas non plus complètement anormal. Alors cependant, une journaliste argentine, donc qui connaît très bien le pape, a elle parlé d'un malaise cardiaque avec des douleurs à la poitrine qu'il aurait ressenti, que le pape aurait ressenti hier. Elle explique que c'est pas la première fois, qu'il avait déjà été hospitalisé, mais pour le coup, la presse n'en avait rien su il y a quelques années pour un problème cardiaque. Donc difficile de savoir effectivement, de mesurer l'état de gravité du pape, hein, mais pour l'instant, en tout cas, les communiqués sont plutôt rassurants.
Et voilà, c'est la fin de ce journal sur CNews. L'actualité continue bien sûr dans Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités.
Effectivement, je vais vous présenter nos invités. Tout d'abord, regardez cette image d'attente de l'arrivée d'Emmanuel Macron à Savines-le-Lac. Il y a déjà eu deux interpellations avant l'arrivée du président de la République. Il n'est pas dit qu'il va arriver du tout par cette entrée-là. Et d'ailleurs, il y a peu de probabilités. Nous allons le suivre et évoquer en réalité aussi le contexte aujourd'hui dans lequel se déplace le président de la République. Je salue nos journalistes. Noémie Schulz, bonjour à vous. Merci
d'être
là.
Bonjour Sonia.
Du service police-justice. Et Gauthier Lebret, bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Journaliste politique autour de cette table. Caroline Pilastre, bonjour.
Bonjour Sonia.
Paul Melun, Pierre Gentillet, Joseph Touvenel, merci d'être tous là. Bonjour à vous.
Bonjour.
Gauthier Lebret, c'est la question. Sous haute surveillance, beaucoup de forces de l'ordre. Évidemment, le président va parler d'un tout autre sujet que la réforme des retraites, mais tout le monde, dans toutes les têtes, n'y a qu'un seul sujet.
Oui, la réforme des retraites et son accueil. Et son accueil sur place, puisque c'est la première fois qu'il ressort quelque part de l'Élysée pour aller ailleurs qu'à l'international. Il l'avait fait, on se souvient, au marché de Rungis face aux travailleurs. Et donc là, effectivement, il retourne sur le terrain. Mais enfin, c'est un semi-retour, puisqu'il n'ira pas au contact de la population. Il est quelque part bunkerisé, le président. Je vous rappelle qu'on a demandé aux ministres de limiter leurs déplacements ces derniers jours. Il voulait aller au Stade de France le week-end dernier pour voir France-Pays-Bas. Il n'y est pas allé de peur de se faire huer par l'entièreté du stade. Et donc on voit bien sur les images de Stéphanie Rouquier depuis Savines-le-Lac, effectivement deux interpellations, les manifestants donc avec les drapeaux de la CGT bien mis à distance et le chef de l'État qui pourrait en plus même pas passer devant eux pour éviter évidemment d'être hué copieusement.
CGT, force ouvrière, etc. En fait, ce qui est marquant, Paul Melun, c'est qu'Emmanuel Macron va parler quand même d'un sujet important.
Très important.
C'est l'eau et ô combien précieux. Mais on a l'impression qu'il veut passer à une autre séquence politique. Mais bon, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça.
Ah oui, mais dans la tête des communicants qui l'entourent, ça et se oui. passe comme ça. C'est bien ça le problème. Ça illustre bien, d'ailleurs, je trouve, ce que vous montrez là, la déconnexion finalement qui s'opère entre le président et ses plus proches conseillers et le pays. C'est qu'on raisonne en séquence, comme disent les journalistes politiques que vous êtes, cher Gauthier. C'est la séquence retraite est terminée, on passe à la séquence Savigny-le-Lac et puis après on passera à une autre séquence. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, évidemment. Je peux vous dire, je ne suis pas Madame Irma, mais à mon avis, ça va être difficile pour le président de la République de se déplacer en France dans les semaines et mois qui viennent, compte tenu du contexte social et de ce que moi je qualifierais de brutalité politique et sociale sur la question des retraites. Donc ça va être très difficile. Le président de la République, vous le disiez, Gauthier, il va être bunkerisé. Je pense qu'il va se déplacer, mais il ne va pas pouvoir aller au contact de la population, aller faire des bains de foule. Je ne sais pas si on va le déplacer en papa mobile. Voilà, je ne sais pas. Mais enfin, à un moment donné, ça va être très difficile pour lui de se promener au contact des Français. Et ça illustre bien les difficultés dont il fait preuve.
Totalement impossible. Un bain de foule, là, aujourd'hui, c'est totalement impossible.
Alors on peut lui reconnaître d'aimer cela et d'aimer même parfois le dialogue, la confrontation directe.
Et d'aller au contact. Il l'a fait pendant la campagne présidentielle. C'est la fameuse phrase, aller au contact des Français. C'est plus possible.
Être à portée d'engueulade, comme disent les élus.
À portée de baffe, oui.
À portée de baffe, pardon.
Oui.
Au sens
symbolique,
figuré,
évidemment. Sens figuré, évidemment. C'est important. Non, mais alors, il faut reconnaître les choses aussi, parce que, soyons objectifs, il y a à peine une centaine, Stéphanie Rouquier nous dira sur place combien il y a de manifestants, d'individus qui attendent Emmanuel Macron, mais c'est le dispositif sécuritaire qui interpelle Joseph Touvenel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il est légitime. On aurait bien aimé voir le même dispositif en Afrique quand il se baladait avec une bouteille de bière au milieu de la foule. Moi, c'était un peu inquiétant. Je ne sais pas pourquoi.
Le rapport, il est compliqué à trouver.
C'est le dispositif de sécurité du président de la République. Il est plus à l'aise en Afrique dans une boîte de nuit que sur le territoire français dans un village.
On est en pleine réforme des retraites avec un contexte social.
C'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant sur l'état du pays et sur la façon dont gère le pays. Et quand Paul Melun disait brutalité. On aurait pu ajouter brutalité et stupidité, parce que quand le président de la République s'adresse aux Français et est méprisant vers les Français qui sont contre la réforme, après le fond de la réforme on peut en discuter, mais le mépris du président de la République, puisque c'est un communicant, une communication stupide.
Vous me mettez dans le rôle, peu importe, mais il faut que je le précise, brutalité, très bien, 49-3, outil constitutionnel, il y a eu un vote malgré tout. Je le précise simplement, oui, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus en démocratie.
J'ai pas dit ça. Non, quand je dis par exemple toujours. Stupidité, c'est le mépris. Quand on dit je refuse, je vous ouvre pas la porte de l'Élysée alors qu'on est en pleine crise.
Les grilles de l'Élysée sont fermées, la porte de Matignon est
exactement.
Ouverte.
Exactement.
Bon. C'est simplement voilà.
Quelle nuance.
Stéphanie Rouquier est sur place. Stéphanie, alors je ne sais pas par où va passer le président de la République et en même temps, c'est pas d'une importance cruciale. Moi, ce qui compte pour le débat, c'est le contexte dans lequel un président de la République aujourd'hui se déplace, Emmanuel Macron, en pleine réforme, en pleine contestation contre la réforme des retraites, alors qu'il lui reste encore 4 ans. 4 ans. Stéphanie Rouquier, quelle est l'ambiance sur place?
Oui. Bah écoutez, il y a une centaine de manifestants. Effectivement, c'est exactement ce que vous disiez. Ces manifestants m'ont expliqué que pour eux, c'est hors de question qu'Emmanuel Macron vienne ici chez eux pour parler de toute autre chose que la réforme des retraites, parce que eux, bien évidemment, ils ne veulent pas tourner la page. Ils n'ont pas tourné la page. Le sujet de l'eau, bien évidemment, ils m'ont expliqué que c'est très important, surtout cette région. Ils ont extrêmement souffert de la sécheresse l'été dernier. Là, on voit encore les niveaux d'eau qui sont extrêmement bas. Mais pour eux, eh bien, c'est hors de question. Ils veulent qu'Emmanuel Macron retire encore et toujours cette réforme des retraites.
Stéphanie Rouquier, on vous retrouvera tout à l'heure à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors, on va suivre cela, parler du contexte politique, mais tout cela s'inscrit dans un autre contexte. On va en parler avec vous, Noémie Schulz. On va voir les suites de Sainte-Soline. Il y a plusieurs polémiques autour de Sainte-Soline. Il y a tout d'abord la polémique autour d'éventuel de l'entrave supposée des secours. Et puis, il y a une autre polémique sur les armes qui ont été utilisées. C'est dans ce contexte que va se tenir tout à l'heure une sorte de rassemblement devant les préfectures, Noémie, à l'appel du collectif Les Soulèvements de la Terre, collectif que veut dissoudre Gérald Darmanin. Alors, il y a eu une note d'alerte sur la présence d'éléments radicaux. De quoi s'agit-il?
Oui, c'est un télégramme que Gérald Darmanin a envoyé hier à tous les préfets, mais aussi au patron de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou encore de la DGSI. C'est un document que nous avons pu consulter et dans lequel on voit que la source d'inquiétude pour le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est effectivement ces appels à se rassembler ce soir à 19h devant chaque préfecture. Alors, on peut lire que plusieurs collectifs d'ultra-gauche appellent à ces rassemblements afin d'exprimer leur soutien aux personnes blessées ce week-end à Sainte-Soline et aussi pour dénoncer les violences qui seraient le fait des forces de l'ordre. Selon le renseignement territorial, de 16 à 20 000 personnes sont attendues partout en France, hors région parisienne, pour un total de 80 actions. Selon nos informations à Paris, ce sont 2 000 personnes qui pourraient se réunir devant la préfecture de police. Alors, la tension, on le sait, était déjà très forte depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Elle est montée encore d'un cran ce week-end avec ce rassemblement interdit et les violences qui l'ont émaillé à Sainte-Soline. Le ministre de l'Intérieur, il demande donc au préfet une vigilance toute particulière, d'abord pour protéger les préfectures, les sous-préfectures. Il mobilise les services de police et de gendarmerie. Il demande aussi au préfet de se coordonner avec l'autorité judiciaire, avec les parquets, pour que des suites judiciaires soient apportées à tous les débordements qui pourraient avoir lieu. Il précise qu'en fonction des risques qui seraient identifiés, les manifestations susceptibles de troubler gravement l'ordre public seront interdites. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'à un endroit où il apparaît que ça va être particulièrement tendu, eh bien le préfet interdit le rassemblement. Enfin, Gérald Darmanin, et vous l'avez dit, il a fait part mardi de son souhait de dissoudre le groupe Soulèvement de la Terre. Dans ce télégramme, il encourage les préfets à transmettre à son cabinet tous les éléments qui pourraient venir appuyer sa démarche pour permettre ensuite la dissolution du mouvement.
Et on peut noter aussi qu'il va y avoir des élus hein, qui vont se rassembler également, en tout cas être présents devant les préfectures tout à l'heure à 19h. Par exemple, Sandrine Rousseau y sera, députée de la NUPES. On va revenir aussi sur le contexte et les suites de Sainte-Soline. Plusieurs polémiques, je vous le disais, qui entourent les scènes de chaos. Nous allons évoquer la polémique autour de l'intervention des secours. Et il y a la polémique autour des armes utilisées par les forces de l'ordre. D'abord sur la polémique autour des secours. Je vais poser une question. Qui peut imaginer, après c'est la justice évidemment qui va se prononcer, mais qui peut imaginer que, Caroline Pérez, de manière générale, des gendarmes laissent des blessés ne pas être secourus?
Je n'y crois pas, sincèrement.
Après, il y a une enquête.
Il y a une enquête, évidemment, donc je ne vais pas m'avancer plus que de raison. Mais le but d'un gendarme, d'un policier, d'une personne représentant la loi, étant au service du citoyen, c'est de lui venir en aide. Qu'il y ait eu un tir imprécis, c'est probable. Maintenant, rien ne justifie évidemment que deux personnes se retrouvent dans une situation aussi grave médicalement, puisque leur jour est quand même assez compté quand on écoute l'état médical dans lequel ils sont. J'attends que la justice fasse toute la transparence sur cette affaire. Mais de prime abord, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les gendarmes qui, sans doute, comme je vous l'ai dit, ont tiré de manière imprécise sur ces manifestants, sur ces activistes.
Et la question, ont-ils entravé, c'est-à-dire l'arrivée des secours, c'est ça précisément?
Je ne pense pas. Maintenant, il y a de l'instrumentalisation politique de part et d'autre à voir ce que la justice dira.
Mais il y a des faits. Il y a eu d'un côté le SAMU qui a précisé que ce n'était pas le cas. Il y a eu la préfète des Deux-Sèvres qui a précisé que ce n'était pas le cas. Il y a un médecin militaire qui s'est exprimé en affirmant qu'il était très compliqué de se déplacer dans la zone et que lui-même y était et a pu secourir des blessés avec des jets de projectiles partout. Et il est vrai que de l'autre côté, dans le journal Le Monde, il y a eu des extraits d'appels téléphoniques, d'échanges entre le SAMU, le médecin, et puis il y avait également, je crois,
les observateurs et des avocats de la Ligue des droits de l'homme.
La Ligue des droits de l'homme, qui évoquent, en tous les cas, un retard ou une difficulté pour les secours d'accéder sur zone. On va écouter la défense du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à ce sujet.
Je regrette que des parlementaires revendiquent d'aller dans une manifestation illégale. Ne respectant ainsi pas eux-mêmes la loi de la République. Je regrette que des parlementaires puissent être à côté de ceux qui jettent des cocktails Molotov sur des gendarmes. Je regrette que des parlementaires puissent ne pas constater, comme j'ai pu le constater, de voir des gendarmes dont les pieds eux-mêmes ont été attaqués par l'acide. Je regrette par ailleurs que vous relayiez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Oui, monsieur, mais écoutez le SAMU, regardez le SAMU des Deux-Sèvres qui le dit lui-même. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas. C'est le médecin du GIGN, monsieur le sénateur, qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour. Mais vous pouvez hocher la tête, c'est extrêmement scandaleux ce qui se passe. Et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des pluies de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité, monsieur le sénateur.
Maître Gentier, reconnaissons que l'enquête ne va pas être évidente parce qu'il faudra juger et appréhender d'un moment où, qui était quand même dans une grande confusion avec des jets de projectiles de toutes parts.
Vous avez utilisé le mot adéquat, confusion. Et c'est précisément le rôle de l'enquête. Le parquet de Rennes est saisi et un juge va être sans doute effectivement désigné pour chapeauter effectivement cette enquête. Il va falloir reconstituer un petit peu tout ce qui s'est passé parce que, je veux dire, pour l'instant, depuis 24 heures qu'on en parle, je crois, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent. Parfois, on ne sait pas. Par exemple, on a fait témoigner, il y a eu cet enregistrement effectivement de ce médecin du SAMU interrogé par quelqu'un de la Ligue des droits de l'homme, je crois, et qui n'avait, semble-t-il, pas toutes les informations au moment où il s'exprimait. Par ailleurs, il y a plein d'éléments que le grand public n'a pas. Par exemple, on ne sait pas qu'il y a une zone d'exclusion, typiquement. On ne sait pas que, évidemment, c'est une évidence, mais que, les pompiers, pour qu'ils puissent intervenir, le SAMU, pour qu'ils puissent intervenir, il faut que ce soit dans des conditions de sécurité qui soient adéquates. Or, c'est la raison pour laquelle il y a une zone d'exclusion et que derrière, il y a une autre zone dans laquelle on va amener les blessés. Et bien effectivement, tout ça, il va falloir essayer à travers l'enquête de reconstituer tous les éléments pour voir s'il y a une faute du côté des policiers. Mais je veux dire, pardon, là, on est en train de jeter l'opprobre sur les policiers. Une partie de la presse. Je veux dire, encore une fois. Qui avons-nous face à nous? Qui les policiers avaient-ils face à eux? C'est pas les policiers qui viennent pour attaquer, pour agresser. En face, les gendarmes, pardon, merci. On avait des personnes qui étaient armées avec des couteaux, avec des haches. Nous n'avons pas des enfants de cœur en face de nous.
Très bien. Mais je rejoins quand même Caroline Pilas. Rien ne peut conduire à deux personnes qui se retrouvent
dans une situation.
Mais bien évidemment,
est-il contraire.
Après, bien évidemment,
ce qui est intéressant, c'est de voir que
le
SAMU, très rapidement, parce que Presse Océan, quotidien local, avait suggéré qu'effectivement, volontairement, ils n'étaient pas intervenus. Le SAMU a demandé rapidement que Presse Océan passe une autre information en disant c'est une fake news, c'est les gens du SAMU qui l'ont dit.
Tout à fait.
Donc les gens qui étaient sur place, c'est
tout
quand
à
même.
Fait. Et qui ont dit non, nous avons pu intervenir.
Le processus, on le connaît, c'est le processus révolutionnaire de provocation répression pour arrêter, et ensuite mobilisation parce que je cherche à avoir des victimes, et une fois que j'ai une victime, alors je la mets en avant. Oui, les responsables sont ceux qui vont dans la violence et qui attaquent les gendarmes.
Est-ce que c'est cette crainte, Noémie Schulz? Alors là, on est dans un environnement géographique très particulier avec Sainte-Soline, mais pour ce soir avec les préfectures, est-ce qu'il y a une crainte de scènes de débordement et d'échauffourées? Parce que la note à la lire, véritablement, c'est une note d'alerte.
Oui, c'est en tout cas un appel vraiment à la vigilance. Je pense que ce qui sous-tend, c'est ce qu'on a vu, tous ces mouvements un peu spontanés, ces rassemblements spontanés à partir du moment où le 49-3 a été utilisé pour faire passer la réforme des retraites. On a vu ces rassemblements en fin de journée dans les villes, notamment à Paris, mais pas seulement. Et donc là, ce soir, comme il y a cet appel vraiment lancé devant toutes les préfectures, il y a la volonté de ne pas revoir aussi ces images très violentes, celles de l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux, d'où cette injonction du ministre de l'Intérieur à bien protéger les préfectures, les sous-préfectures aussi qui pourraient être prises pour cible, et le cas échéant à interdire certains rassemblements s'il apparaît que le risque de troubles à l'ordre public est trop important.
Alors, on va se rendre à Savines-le-Lac, dans les Hautes-Alpes, pour voir et suivre l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui est arrivé sur place. Pour s'exprimer, on va le rappeler, sur un sujet qui est très important et un sujet qui est d'ailleurs peut faire polémique, qui est au cœur aussi du sujet dont on vient de parler avec Sainte-Soline, c'est l'eau, c'est la gestion de l'eau, pas seulement pour demain, mais pour les années à venir. Et puis, ça arrive évidemment, Gauthier Lebrun, dans un contexte extrêmement particulier. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, jusqu'aux prochaines semaines, prochains mois, ce sera toujours un contexte, bon, difficile à prévoir, mais inflammable pour le président?
On ne peut pas dire quand ça va s'arrêter précisément, c'est impossible à dire. Mais effectivement, dans les prochaines semaines, ça va être très compliqué pour le président de se déplacer en France. Ça sera complètement impossible d'aller au contact de la population. Et s'il fait le choix, d'ailleurs, en fait, il ne va pas vraiment se déplacer énormément en France puisqu'il part en Chine pour un voyage diplomatique. Ensuite, il va partir aux Pays-Bas. Donc, il va privilégier, d'ailleurs comme pendant toute cette séquence des retraites, l'international plutôt que l'hexagone. Et je le disais tout à l'heure, il est quelque part bunkérisé. On a demandé au ministre de limiter leurs déplacements. Le président, pareil, il ne peut pas aller assister à un match de foot où il y a l'équipe de France parce qu'il prend le risque de se faire siffler par tout un stade. Donc évidemment, ça va être très compliqué. Et sur le fond de ce plan eau, le but, évidemment, c'est de limiter notre consommation d'eau et limiter la consommation de nos institutions. Le président va vraisemblablement présenter un plan de sobriété, comme sur l'électricité et l'énergie qui a été présenté il y a quelques semaines, où je vous rappelle que les ministères, la fonction publique, a baissé sa consommation d'électricité. Là, ça va être pareil sur l'eau pour montrer l'exemple et qu'on baisse collectivement notre consommation d'eau.
Alors, évidemment, ça intervient dans un sujet de contexte social qui reste inflammable. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de mépris, mais la porte est ouverte, là, du gouvernement. Bah, écoutez, il y a une réunion.
Mais pour parler de quoi?
Non, mais oui. Ça, c'est à voir entre les syndicats et le gouvernement. Non, mais... Vous avez Laurent Berger qui accepte d'y aller, c'est déjà un premier pas.
C'est facile d'ouvrir la porte quand on l'a fermée pendant des mois et des mois. Je veux dire, ça rime un peu. L'attitude d'Emmanuel Macron depuis quelques semaines, c'est une banalité, mais je trouve vraiment de plus en plus arrogante. Je passe l'interview sur Pif Gadget parce que là, c'est complètement lunaire. Mais quand il nous dit « ma porte est ouverte », quand pendant des mois, il n'y a pas eu de dialogue avec les syndicats, c'est vraiment de la
provocation. Alors, regardez cette image du président de la République avec des élus autour de lui. On reconnaît le ministre déjà de l'écologie, Christophe Béchu. On reconnaît le président de la région Sud, Renaud Muselier. Et c'est vrai que cette image, je veux dire, elle tranche par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on décrit depuis des semaines.
Bien loin des Français. C'est entre nous, bien loin de la population, parce que voilà, la fracture, l'écran est parfait, la fracture entre le président, les élus.
Alors la population, là, sur l'autre partie de l'écran, ce sont aussi des responsables pour la plupart syndicaux, etc.
Bien évidemment.
Et pardon, là, c'est un plan.
Mais la fracture, elle est évidemment.
Il ne peut pas aller dans les rues de Savines-le-Lac faire une grande déambulation.
Non. Puis pardon.
Aller rencontrer la population non syndiquée.
Excusez-moi, il y a le choix du plan, c'est-à-dire le plan de votre journaliste. Là, c'est un plan très rapproché. Ce serait assez amusant d'avoir un plan assez distant. Je pense qu'on verrait que finalement, il n'est peut-être pas autant accompagné ou sans doute plus accompagné par des gardes du corps et des gendarmes.
Non, mais le divorce est voilà, consommé. Non, mais attendez, chers amis, c'est normal qu'un président de la République bénéficie d'un service de sécurité autour de lui.
Il n'assume pas son isolement.
Mais dans le même temps, on a vu des présidents de la République qui étaient controversés, où il y avait des opposants, mais il y avait aussi des gens qui venaient soutenir. Les soutiens d'Emmanuel Macron, là, on ne les voit pas. C'est-à-dire que même les gens, ça veut dire que c'est une toute petite minorité. Globalement, la population n'en peut plus.
Non, mais ce qui se passe, pour moi, c'est bien plus profond que ça. C'est-à-dire que ça n'est pas une séquence parmi tant d'autres. À mon avis, cette séquence va durer encore 4 ans. Car l'utilisation, je vous rejoins Joseph, du 49-3, fait que ça crée un gouffre supplémentaire en termes de personnalité, entre M. Macron et une partie de la population. Il va être ostracisé désormais, à tort ou à raison, mais ce qu'il pourra dire ne sera, pour moi, plus audible. À partir du moment où il a voulu jouer la carte de l'ouverture d'esprit, de tendre la main, soi-disant, aux syndicats, et donc, par extension, à la population, et qu'à l'arrivée, il la ferme totalement en ne voulant rien entendre des difficultés de vie, bien. Pour moi, c'est une...
Mais c'est vrai que la dichotomie entre ces deux images est particulière, Gauthier.
Elle est très symbolique, mais pour tempérer un peu ce qu'on peut dire, attention, on a tenu exactement le même discours sur les gilets jaunes, on a dit Emmanuel Macron est coupé de la population, il retrouvera jamais le lien avec les Français, il a été réélu. C'est le premier président de la République à avoir été réélu hors période de cohabitation. Donc attention à ne pas l'enterrer politiquement trop tôt. Il lui reste 4 ans.
Mais il reste 4 ans pour faire quoi ? La grande question, c'est oui. Ça. Avec une majorité qui est totalement sous tension,
qui est relative.
Avec des partis politiques
regardez,
et, était, et avec une population fracturée.
Regardez, il a même la preuve. Le projet de loi, le fameux projet de loi immigration. Vu comme c'est passé. Le débat sur les retraites.
Il a dit. Ah bah voyez, regardez, attendez, il y a des micros, il y a des micros qui se tendent. Voilà. Et ben vous l'avez demandé le plan large, il arrive. Vous voyez.
Quelle influence.
Il y a des journalistes.
Voilà, voilà.
Écoutez,
voilà.
On va continuer à suivre ce déplacement, puis plus largement aussi les suites à Sainte-Soline.
C'est
joli,
c'est ce qu'on peut dire. Je pense qu'ils ont trouvé un endroit en pleine nature où il est assez loin du monde, on dirait.
Vous voyez.
Et l'Élysée, vu que c'était pas officiellement dans la note envoyée aux journalistes sur ce déplacement, avait dit que le président finirait par aller au contact de la population. C'était hier soir, avant les images de la mobilisation, de la petite mobilisation et du comité d'accueil. On verra s'il va au contact de la population, mais ça paraît totalement, encore une fois, totalement impossible. Sauf.
Alors là, ça fait déjà quelques minutes qu'ils observent un plan d'eau, le même plan d'eau depuis tout à l'heure. Donc, on va se retrouver dans quelques instants. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. On va voir comment ça va se dérouler, bien sûr. Et évoquer à Sainte-Soline, les suites sont très, très importantes. C'est une bataille politique aussi entre le ministre de l'Intérieur et une partie de la classe politique, en particulier les Insoumis. Nous entendrons d'autres extraits, justement, des mots du ministre de l'Intérieur. Et on se retrouve dans quelques instants. Un déplacement sous haute surveillance pour Emmanuel Macron pour parler et présenter son plan eau à Sabines, le lac dans les Hautes-Alpes, en pleine contestation contre la réforme des retraites, avec, vous le voyez, à la fois le président sur une partie de votre écran et l'entourage, et puis à la fois des responsables, en tous les cas syndicaux avec les drapeaux CGT, Force ouvrière et d'autres qui sont venus l'interpeller mais qui ne l'ont pas croisé. On va continuer à en parler. Tout d'abord, les titres, Audrey Berthaud.
Un an après le scandale des pizzas contaminées, Nestlé a annoncé la fermeture définitive de l'usine Buitoni de Caudry dans le Nord. Une centaine de salariés se sont réunis ce matin devant l'usine. L'activité du site est déjà suspendue depuis début mars en raison d'une chute des ventes. Le groupe propose aux 140 salariés une opportunité de reclassement interne. Les interventions pour les impayés de factures d'énergie ont augmenté de 10% en 2022, malgré le bouclier tarifaire qui avait été mis en place. Selon EDF, l'essentiel des interventions pour impayés concerne des réductions de puissance qui sont moins pénalisantes pour les consommateurs concernés. Leur nombre a donc bondi en 2022. Et puis, deuxième jour du roi Charles III en Allemagne, il devient tout premier monarque à s'adresser aux députés allemands dans l'enceinte de Bundestag. Le roi s'est entretenu avec le chancelier Olaf Scholz. Il doit également rencontrer des réfugiés ukrainiens et visiter une ferme biologique.
Petit tour d'écoute, Emmanuel Macron.
Pour vous, le débat est clos ou c'est quelque chose dont vous souhaitez encore parler avec eux peut-être ?
Non, il y a une manifestation, je crois, de 200 personnes environ qui sont ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc, il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de ce texte aille jusqu'à son terme. Moi, je suis là aujourd'hui pour avancer sur un sujet qui est essentiel et qui fait aussi la vie de beaucoup de nos communes et de nos compatriotes sur tout le territoire. Et je suis très heureux de retrouver ce beau département qui est celui de l'eau et du rapport à la sécheresse. On a tous vécu l'été dernier une situation qui était absolument terrible. J'avais parlé moi-même de la fin de l'abondance en revenant de cet été. On a eu des communes à un niveau inédit et surtout dans une répartition à travers tout le territoire qui ont été confrontées à ce problème de l'eau. Et donc il y a eu un très gros travail fait par les élus, le gouvernement, les experts. Et là on vient le parachever, si je puis dire, en annonçant cette stratégie qui va nous permettre de préparer l'été prochain et surtout les années à venir. Il y a un immense travail.
Monsieur le Président, est-ce que ce déplacement sur le thème de l'eau, c'est un moyen pour vous d'essayer de passer à autre chose alors qu'il y a une crise politique dans le pays ?
Non, il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir, on doit faire face aux sujets alimentaires. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal. Je fais mon travail.
C'est pas une crise politique, selon vous, ce qu'on traverse en ce moment dans le pays ?
Écoutez, j'ai le sentiment qu'il y a eu un moment de clarification politique qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale. Après, qu'il y ait des commentaires, c'est une chose, mais ça a été clarifié au moment du vote sur la motion de censure. Maintenant, il y a un texte qui est devant le Conseil constitutionnel et il doit l'examiner avec la sagesse qui va avec cette institution et le calme qui sied à ces débats.
Mais est-ce que vous entendez les manifestants crier ?
Bien sûr, il y a 200 manifestants. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que la République doit s'arrêter et qu'on doit dire on doit attendre de revenir sur les sujets de sécheresse dans un mois ? La réponse est non. On doit continuer de travailler avec beaucoup de respect, de calme. J'ai donné un mandat à la Première ministre, c'est ce qu'elle fait, en train de travailler avec les groupes politiques, avec tout le monde. Mais il est normal qu'on continue de travailler avec les élus, avec les habitants sur des sujets aussi essentiels que l'eau.
Pour être très clair, la question des 64 ans, vous ne reviendrez pas dessus, sauf si le Conseil constitutionnel décidait de censurer le texte.
Mais je ne vais pas redire la même chose tous les 4 jours. Sinon, on bégaye.
Cette vous empêche d'aller à la rencontre des Français directement.
Non, elle ne m'empêche pas d'aller à la rencontre des Français ni d'aller sur le territoire. Et je l'ai l'occasion de le dire, il y a eu des scènes d'une violence inacceptable ces dernières semaines. Celle-ci, je les condamne avec la plus grande fermeté. Il y a une instrumentalisation politique qui a parfois poussé ou légitimé cette violence, qui a refusé de la condamner. Je veux ici redire tout mon soutien à l'égard des élus, qu'ils soient parlementaires, maires, élus de la République, qui ont parfois été agressés en raison des positions qu'ils avaient tenues, c'est incompatible avec une démocratie, et redire mon soutien à nos forces de l'ordre. Mais à côté de ça, que les forces syndicales s'expriment dans un contexte où il y a une réforme, de manière organisée, parfois sonore, mais enfin respectueuse, c'est normal, c'est la démocratie. Et c'est prévu par notre Constitution, et je dois dire que nos syndicats ont tenu des manifestations, des mobilisations qui se sont faites dans le, pour eux, le calme et le respect. Voilà.
Monsieur le Président, lors de votre interview télévisée, quelques jours après le 49-3, vous avez fait preuve d'une fermeté qui, on l'a entendu dans les manifestations, a poussé beaucoup de gens à se mobiliser. On a vu d'ailleurs le lendemain un regain de mobilisation dans la rue. Est-ce que vous faites d'une certaine manière amende honorable aujourd'hui, vous dites j'ai eu un ton peut-être trop ferme qui a pu crisper des gens.
Je ne suis pas le commentateur de moi-même. C'est votre travail, c'est pas le mien. Donc sincèrement, on doit avancer. Notre pays, d'abord, a des forces extraordinaires. On parlait là de la vitalité économique de nos stations de montagne, des bons résultats qu'on peut avoir. Il y a des choses qui vont bien dans le pays, il faut aussi savoir le dire, le regarder en face. On est un des pays qui résiste le mieux face au choc de l'inflation. On a une économie qui continue d'être forte, qui doit continuer de se réindustrialiser. On est en train de tous se retrousser les manches pour notre école, notre santé. On fait la transition écologique. Donc on a des chantiers immenses. Donc quand je dois parler, je parle, je m'exprime, j'essaie de répondre aux questions des journalistes, mais après, je ne vais pas 8 jours après commenter ce que je dis. Voilà.
Peut-être un mot sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline, parce qu'il y a eu des blessés, aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre. Vous avez sûrement observé cela. Il y a aussi une polémique sur l'accès des ambulances.
Je crois a été levé par le SAMU lui-même, cette polémique. Non, je vais vous dire. Il s'agit justement d'un projet qui correspond aux critères que nous évoquions tout à l'heure. On en a besoin pour justement avancer sur les questions d'eau. Il faut le faire avec des concertations. Elles ont eu lieu avec beaucoup de respect pour les parties prenantes. Et c'est aussi pour ça que je remercie tous nos élus de mener ce travail. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose. Rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs, à Mel, le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc, je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a, chez certains, une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement claires sur ce sujet. Il n'y a rien qui justifie la violence dans une société démocratique.
Comment apaiser cette situation ? Comment apaiser cette situation ?
Mais c'est en appelant chacun déjà à la responsabilité, vous savez. C'est une bonne chose, parce que quand on est élu de la République, on a une responsabilité. S'opposer à des projets, dans ces cas-là, on va essayer de convaincre les électeurs pour avoir une majorité s'y opposer, mais on ne justifie pas, parce qu'à ce moment-là, si on se met à dire quelque chose qui me déplaît légitime, une violence, on aura tous des violences légitimes. Et ça redevient l'état de nature. C'est pas ça une démocratie, encore moins une république.
Pourquoi vous n'avez pas fait de déplacement en région pendant ces deux mois?
J'essaie de faire des déplacements au maximum. J'ai eu aussi beaucoup de contraintes internationales. Dès la semaine prochaine, je serai à nouveau en Chine puis aux Pays-Bas. Donc j'alterne la vie nationale et la vie internationale. Et les déplacements ces dernières semaines aussi ont été contraints d'une part par mon agenda international et d'autre part, à la fois déplacements en Afrique ou en Europe, et d'autre part par le fait qu'il y avait aussi un calendrier législatif. Mais je suis là devant vous aujourd'hui.
Merci. Juste comment faire pour que la distribution de l'eau reste équitable au niveau du lac de Serre-Ponçon ?
Alors, d'abord, je veux saluer ici le modèle, qui est un modèle de concertation permanente et qui permet justement, entre les élus, avec les associations, de beaucoup pacifier les choses. Et c'est un modèle historique, avec une infrastructure qui est elle aussi historique dans cette zone. Et je veux saluer vraiment le travail qui a été fait ces dernières années, celui qui est en train d'être fait, on en parlait avec le maire, le président du conseil régional, du conseil départemental et les parlementaires, qui me rend très confiant sur l'avenir. Et c'est aussi pour ça que, dans le plan que le ministre a préparé, qu'on va présenter dans ses grands axes et qu'il développera ensuite, il y a un geste de confiance à l'égard des territoires. C'est que c'est au plus près du terrain qu'on peut gérer justement la répartition des usages. Et les règles dépendent de l'existant, de la culture de coopération ou pas, de la manière dont tout ça s'est structuré. Et donc, nous aimons l'égalité. Nous devons avoir des grands plans nationaux parce qu'il y a énormément d'investissements à faire. Mais on doit accepter la différenciation et la flexibilité locale.
Merci beaucoup.
Pour la prise de parole du président Emmanuel Macron, qui s'est à la fois exprimé sur la contestation contre la réforme des retraites et les scènes de chaos et de guérilla à Sainte-Soline, affirmant que des gens sont venus faire la guerre pour Sainte-Soline. Il appelle également à une clarification politique. Et puis, sur la réforme des retraites, il affirme que le dialogue se poursuit, que le chemin démocratique de ce texte se poursuit avec le Conseil constitutionnel notamment. Pour résumer cette prise de parole, c'est sur la réforme des retraites, presque tout va bien, tout est normal pour le moment.
C'est la même stratégie depuis l'utilisation du 49.3, celle de la minimisation. Le 49.3, c'est un article qui est permis par la Constitution. Et ensuite, effectivement, minimisation de la contestation sur place. On entend le président, c'est 200 personnes. Le gouvernement ne va pas tomber pour 200 personnes qui se mobilisent lors de ce déplacement, dans l'esprit du chef de l'État. Et effectivement, la grande volonté de passer à autre chose, de tourner la page. C'est pour ça qu'il présente aujourd'hui ce fameux plan eau, construit par son ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Et puis, il rappelle qu'Elisabeth Borne recevra les partenaires sociaux, les syndicats, en début de semaine à Matignon.
Deux choses. Il dit un moment de clarification politique à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il estime finalement qu'il y a eu un vote.
Il avait utilisé le mot victoire face à ses proches. Victoire, car les deux motions de censure ont été rejetées.
Et puis, deuxième chose, le texte au niveau du Conseil constitutionnel sera examiné avec sagesse et calme.
Ah oui.
C'est-à-dire pour trancher avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas donc la rue qui va imposer ses vues au Conseil constitutionnel.
Cette phrase, il se dévoile un peu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il explique qu'une fois que le Conseil constitutionnel aura validé, tout cela sera terminé. Là, il a commencé à tourner la page. Il aura fini de tourner la page à la fin du mois d'avril. Voilà. Mais c'est ça la vérité.
Et ce n'est pas dit qu'il n'y arrive pas. Il y arrivera sûrement.
Et je pense qu'il y a une forme, si vous voulez, de mutisme qui là est portée dans cette intervention à son paroxysme. On aurait
aurait pu sous-titrer « Tout va bien, Madame la Marquise », où effectivement, le président de la République emploie les 30 premières secondes de son interview pour évacuer le sujet des retraites et expliquer que tout s'est bien passé, que les concertations ont eu lieu, que grosso modo, eh bien maintenant, voilà, tout le monde est plutôt bon an, mal an, d'accord pour cette réforme. Et puis terminé, il y a quelques personnes qui contestent, 200 personnes, dit-il, qui sont à quelques centaines de mètres ou un peu plus de que lui. Et puis voilà.
Moi, la question, c'est les syndicats. Et Laurent Berger qui regarde avant l'entrevue qu'il a la semaine prochaine, dans quel état d'esprit il est ? Parce que là, on ne voit pas sur quoi quelque chose pourrait bouger.
Les syndicats, les numéros 1, à l'exception de Martinez qui, à son congrès, se sont vus hier après-midi. Ils se sont mis tous d'accord. On y va. Mais on traite les retraites. Et donc, le mur va se...
Vous avez vu que sur la question des 64 ans, il ne répond pas. Il dit, je l'ai déjà dit, je vais pas revenir. Il ne veut même pas en parler, parce qu'il ne veut même pas, je pense, qu'il y ait...
Il n'y a plus de sujet, c'est devant le Conseil constitutionnel. Et s'il n'y a pas de censure des sages, eh bien, les 64 ans s'appliqueront. Très intéressante, cette réunion à Matignon la semaine prochaine, parce qu'elle peut faire une chose. Renforcer l'intersyndicale à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Ça sera vraisemblablement mercredi. Les syndicats, ils ont un coup à jouer politiquement. Ils ont intérêt à quitter rapidement la salle des réunions en disant « on est venu discuter, on nous a dit on peut rien changer, nous quittons la salle et nous appelons les Français à se mobiliser le lendemain. »
Le lendemain, le 6 avril, c'est-à-dire, je veux dire, les Français qui légitimement la manifestent contre la réforme des retraites et entendent qu'en gros... Quelle que soit l'ampleur des manifestations, rien ne va changer.
C'est ça.
Ce qu'on peut entendre aussi, parce que là, il y a un chemin. Hein, il est aussi prévu par nos institutions.
Par contre, il y a une chose qui peut servir le président de la République, ce qui se passe en ce moment à la CGT. C'est-à-dire que c'est la ligne la plus radicale qui est en train de l'emporter et qui est en rupture avec la CFDT. Donc, ce week-end, demain, la CGT, avec son élection, va peut-être sonner le glas de l'intersyndicale, et c'est peut-être la fin de l'entente cordiale entre la CGT et la CFDT, car Philippe Martinez a été très critiqué après avoir soutenu la demande de médiation de Laurent Berger, qui demandait à ce que cette réforme et les 64 ans soient mis sur pause. Et ça sert le chef de l'État.
Avec aussi un président de la République qui veut incarner, bon, c'est tout à fait normal, hein, vraiment là, pour le coup, l'autorité, l'ordre, tout se poursuit pour le texte sur l'Assemblée nationale et sur Sainte-Soline. Sainte-Soline, les mots sont forts, hein, des gens sont venus faire la guerre.
Oui, mais alors, ce qui est important au prendre, c'est la stratégie du président de la République. C'est-à-dire qu'on l'a bien compris ici, la stratégie du président de la République, c'est la même depuis le début, mais encore plus accentuée, c'est il n'y a rien. Il ne se passe rien dans la rue. Et la seule chose qui compte, c'est la procédure légale et constitutionnelle. Et là, le président de la République et le gouvernement s'arc-boutent sur un cap, c'est le cap du Conseil constitutionnel. Et il répète à l'envi que dès l'instant que le Conseil constitutionnel valide cette réforme, ce projet de loi, il n'y aura plus rien. Mais pardonnez-moi, je veux dire... J'ai l'impression que, alors déjà, effectivement, il fait fi des manifestations, mais on traite le Conseil constitutionnel comme quelque chose de parfaitement neutre. Je voudrais vraiment rappeler une chose. Le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire ces 9 juges qui sont nommés par des politiques, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale et président de la République, vous avez 2 anciens ministres de Emmanuel Macron quand même. Vous avez Jacques Mézard, qui est ancien ministre de l'Agriculture. Vous avez Jacqueline Gourault et vous avez l'ancien directrice de cabinet Véronique Balbec d'Éric Dupond-Moretti. Donc, c'est assez facile de se reposer sur le Conseil constitutionnel quand on connaît sa composition politique et ses avis politiques. Je ne veux pas préjuger parce qu'il y a quand même des éléments juridiques.
Pas préjuger, vous le faites.
Oui,
trop,
j'ai un préjugé.
Assez.
Vous en avez raison.
Trois pierres, j'en ai 6 autres. Oui. Dont certains ne sont pas marqués politiquement. Et Laurent Fabius, qui n'est pas le meilleur ami de Emmanuel Macron.
Bien sûr, mais vous en convaincrez d'avoir trois alliés de Emmanuel Macron.
Mais quel signal a été envoyé par cette prise de parole quand même ? Moi, le signal, est-ce que c'est votre avis que l'analyse ? Voilà, la séquence est terminée.
Sauf que ça n'est pas aussi simple que ça. Et c'est ça qui me désespère et que je trouve terrifiant dans la psyché du président de la République. Pardonnez-moi, oui, terrifiant. Parce qu'il y a un malaise ancré au sein de cette population. On ne parle pas des Black Blocs, on ne parle pas des radicaux qui sont là pour mettre le chaos. On est tous d'accord sur le constat. Mais il n'a pas répondu à cette colère. Ça n'est pas parce qu'il décide de la méthode Coué qu'on va avancer et qu'on oubliera ce qui s'est passé précédemment. Je rappelle que l'utilisation du 49-3, même si ça ne lui plaît pas, a été perçue auprès de la population française comme un affront, comme une offense. C'est de l'autoritarisme pour la plupart des Français.
Il parle de clarification politique.
Mais il peut utiliser tous les adjectifs et synonymes du monde. Les Français n'ont plus confiance en sa politique.
Oui, mais ce qui se passe à Sainte-Soline sert le discours qu'il est en train de tenir.
Non, sur la violence. Là, on le rejoint. Mais pas sur les manifestations pacifiques depuis des mois.
Mais là, ne parlons pas aussi en séquence. C'est-à-dire, quand on voit ces images de chaos, c'est insupportable.
Mais là, on ne peut que lui donner raison. Mais sur le profond malaise de cette société depuis les gilets jaunes et la crise de la Covid, rien n'a été fait pour répondre à ce malaise une fois de plus. Et s'ils ne comprennent pas ça, je vous dis que son quinquennat est terminé pour les 4 ans à venir. Il n'a pas répondu clairement à la population, aux souffrances liées à l'inflation.
Il l'a pas fait lors du premier quinquennat. Pourquoi le ferait-il lors du second ? C'est présumé qu'Emmanuel Macron est le président, pardonnez-moi, je vais être un peu provocateur, président de tous les Français. Emmanuel Macron est élu sur un premier tour avec 28%, qui correspond à un socle et à une sociologie que sont les retraités et les classes moyennes aisées. À partir du moment où il a ce socle sur le second tour, il joue le rôle de l'antifascisme, il joue la carte de l'antifascisme, carte sur laquelle la gauche se précipite. La gauche qui aujourd'hui manifeste contre la réforme des retraites. Ça a bon dos quand ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron n'a pas, et il le sait bien, dans le jeu institutionnel qui est celui de la Ve République, à rassembler la majorité des Français. Et il lui suffit simplement de rassembler le socle le plus important. Il a fait ça pendant son premier quinquennat, c'est pour ça qu'il a réprimé les gilets jaunes. Et il continue sous son second quinquennat. Et il n'a pas de raison objective de changer.
Une majorité de Français, et ça c'est certain, qui sont contre les violences. Qui sont contre les violences. Et aujourd'hui, le rempart.
Vous savez quoi ? On se posait la question il y a trois semaines sur votre plateau. Il y a trois semaines sur votre plateau, en une phrase. On se posait la question il y a trois semaines sur votre plateau, à qui vont profiter ces violences.
Et c'est ça.
Vous avez la réponse. Oui. Voilà. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit dire ? Bah, évidemment, on ne va pas approuver ces violences de l'extrême gauche.
Et après, on va reprendre le débat tranquillement.
Le déport du débat sur les retraites vers le débat sur les violences et sur notamment ces présumées violences policières, ou en tout cas sur les affrontements qu'il y a eu à Sainte-Soline ou ailleurs en marge des cortèges, effectivement, ça arrange quelque part le discours, le récit de la majorité présidentielle. Parce que ça permet, et on l'a dit, mais c'est important de le redire, ça permet à la majorité présidentielle d'incarner ce fameux parti de l'ordre qui a tant et tant permis de sortir des grandes mobilisations sociales. Et on le sait, depuis 1968, le général de Gaulle avait emporté brillamment les élections législatives après le chaos. Dans le chaos, on se repose souvent avec un réflexe légitimiste et ce réflexe, le président veut le solliciter.
Un mot pour dire, ils incarnent le parti de l'ordre et ce matin, c'était très intéressant, la ministre des PME sur notre antenne, elle incarne aussi le soutien aux commerçants. Les commerçants n'en peuvent plus des mobilisations, donc ça les étouffe. S'il vous plaît, arrêtez les mobilisations.
Ils incarnent le soutien aux commerçants.
C'est aussi le discours.
Ils expliquent incarner cela.
Ils veulent incarner.
Voilà. Bien sûr, j'ai pas dit que... Évidemment.
Bon, une courte pause, on va revenir sur ce qu'a dit le président sur la contestation contre la réforme des retraites, le chemin démocratique de ce texte qui se poursuit, le Conseil constitutionnel qui étudiera ça avec sagesse et calme. Et puis, des gens qui sont venus faire la guerre à Sainte-Soline. Le président qui appelle, là encore, hein, chacun à ses responsabilités, à une clarification. A tout de suite. Midi News, la suite avec la prise de parole d'Emmanuel Macron à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes. Au sujet de Sainte-Soline et des scènes de chaos, le président de la République a déclaré que des gens sont venus faire la guerre. Et à propos de la polémique sur une entrave supposée des secours, il a déclaré que la polémique a été levée par le SAMU lui-même. Et il s'est exprimé évidemment sur la contestation contre la réforme des retraites. Vous en parlez, rebonjour à vous Mickaël.
Absolument, rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un déplacement sous haute tension pour Emmanuel Macron. Dans les Hautes-Alpes, le chef de l'État présente aujourd'hui son plan eau. Vous suivez actuellement les images en direct. L'objectif de ce plan est d'améliorer la gestion de l'eau. Le président de la République qui a donc réagi évidemment à la présence à Savines-le-Lac pour l'accueillir de près de 200 manifestants. On l'écoute.
Il y a une manifestation, je crois, de 200 personnes environ qui sont ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc, il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de ce texte aille jusqu'à son terme.
Et à noter qu'au moins deux de ces manifestants ont déjà été interpellés. Dans l'actualité également, opération Port-Mort. Aujourd'hui et demain, les professionnels de la pêche sont en colère depuis la décision du Conseil d'État d'ordonner la fermeture de zones de pêche dans l'Atlantique. Leur objectif, bloquer toute la filière pour exiger du gouvernement des réponses. Sarah Varny.
Ils ont quitté le navire pour faire entendre dans la rue leur colère. Pour la première fois, le Comité national des pêches appelle à des journées mortes dans les ports français, comme à Bayonne ou Boulogne-sur-Mer. L'objectif, alerter sur la mort de la pêche artisanale et exiger du gouvernement des réponses. Saisi par plusieurs associations de l'environnement, le Conseil d'État a décidé d'imposer d'ici 6 mois la fermeture de certaines zones de pêche de l'Atlantique afin de préserver les dauphins dont les échouages se sont multipliés ces dernières années. Les pêcheurs assurent que les dauphins piégés dans les filets ne sont qu'une minorité et demandent que des analyses soient réalisées afin de vérifier si les traces des engins de pêche ont causé la mort des cétacés. Une décision du gouvernement injuste pour les pêcheurs.
C'est plus la méthode de pêche qui est mise en cause, c'est le marin pêcheur qui doit être détruit et éliminé de la France. Quoi. Je veux dire, les ONG l'ont bien marqué sur leur dernière manifestation, ils ont fait des tracts. En 2030, il n'existera plus de pêcheurs.
Une nouvelle mesure qui attaque un secteur déjà fragilisé. En 20 ans, la flotte française a diminué de plus d'un quart et ne représente aujourd'hui que 25% du poisson vendu sur les étals.
Anne Hidalgo le confirme, la circulation de transit sera interdite dans l'hypercentre de Paris dès début 2024. Et en d'autres termes, les véhicules sans motif d'arrêt ne pourront plus circuler dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. Ils devront donc contourner la zone. Selon la mairie, ces véhicules représentent aujourd'hui 50% du trafic dans l'hypercentre de la capitale. Pimki annonce la fermeture de 64 magasins et la suppression de 257 postes d'ici 4 ans. Ce plan d'économie s'explique par une baisse de la fréquentation et des ventes dans cette enseigne de prêt-à-porter féminin. Le secteur du prêt-à-porter en France est secoué depuis plusieurs mois par une violente crise qui s'est notamment traduite par la liquidation de Camailleux en septembre 2022. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur CNews. Bon après-midi. Place à Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
Merci effectivement avec nous sur ce plateau. Je salue l'arrivée de Florian Tardif, notre journaliste politique. Bonjour à vous Florian. Bonjour, avec Sonia. Pierre Gentil, Joseph Touvenel, Caroline Pilastre et Paul Melun. On va aller directement sur place à Savines-le-Lac après la prise de parole d'Emmanuel Macron à la fois sur la contestation contre la réforme des retraites et sur les scènes de chaos à Sainte-Soline. Soline, quelle est l'ambiance? Le président s'est exprimé loin, j'allais dire, du rassemblement, de la manifestation qui est en cours. Est-ce que cette manifestation de quelques centaines de personnes, 200 personnes, est toujours en place?
Bien là, il y a encore quelques dizaines de personnes qui sont présentes, toujours nassées sur ce petit parking privé par les gendarmes mobiles et par les CRS. Et pour l'instant, bien ça continue. L'ambiance est toujours extrêmement calme. Vous voyez, les forces de l'ordre ne sont plus casquées. La tension est retombée. Et je suis allée parler avec ces manifestants qui m'ont expliqué qu'ils sont très satisfaits de leur coup parce que pour le coup, bien, ils voulaient se faire entendre du président, entendre, je veux dire ça, par les cris, par leurs slogans, par leurs chansons. Et ils ont appris d'une source qui est présente au site du discours d'Emmanuel Macron que, eh bien, on les entend crier depuis cet endroit, c'est à une centaine de mètres de là. Et donc, ils repartent de plus belle avec des chansons, avec des slogans. Et je suis allée leur rapporter les propos d'Emmanuel Macron par rapport à la réforme des retraites, qu'elle poursuivait son parcours. Et ils m'ont expliqué que, eh bien, sincèrement, ils n'en avaient rien à faire parce qu'eux, pour l'instant, ils n'écoutent plus Emmanuel Macron. Ils n'ont pas à l'écouter, ils ne veulent même plus lui faire passer de messages. Ils veulent juste que la réforme soit retirée.
Merci Stéphanie Roquet, on a bien compris la motivation de ces manifestants aujourd'hui. Florian Tardif, c'est vrai que, bon, alors il y a deux images, reconnaissons qu'il y a 200 manifestants, donc il n'y a rien d'ampleur pour l'accueil du président à Savines-le-Lac, mais c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre à la fois une vraie colère, des contestations dans tout le pays, et puis le président qui poursuit son chemin sur d'autres sujets, et son travail comme il dit, hein, c'est ce qu'il dit, on doit continuer à travailler sur tous les grands sujets.
Oui, circuler, il n'y a rien à voir. Le président de la République qui explique que la contestation sociale en ce moment ne l'empêche pas d'aller à la rencontre des Français. Force est de constater que ce déplacement a été annoncé à la dernière minute pour éviter justement un rassemblement d'ampleur sur le site donc du déplacement du président de la République. Il y a eu des barrages filtrants, que la zone est bouclée. Vous voyez ces images en direct qui nous proviennent donc de la ville Savines-le-Lac où est en ce moment même le président de la République. Donc oui, la contestation sociale l'empêche aujourd'hui d'aller au contact de la population. Emmanuel Macron, qui on l'a vu de nouveau, est convaincu par la nécessité de cette réforme des retraites, n'est pas convaincant. Et c'est bien là le problème avec le président de la République et l'ensemble de l'exécutif, c'est qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les Français de la nécessité de cette réforme, avec ce triptyque qui avait été annoncé au tout début par Elisabeth Borne, de justice, de progrès et de déficit qui serait ainsi comblé dans les années à venir.
Il va même plus loin, Florian, parce que là, il insiste beaucoup sur un chemin démocratique hein, pour un petit peu parer au grief de brutalité, d'antidémocratie par rapport à ce qui se passe. Bon, le 49-3 a suscité beaucoup, beaucoup de colère. Il insiste, c'est un chemin démocratique.
Oui, il tente de répondre au procès en illégitimité qu'on lui fait maintenant depuis plusieurs semaines en insistant sur plusieurs points. Premièrement, effectivement, le 49-3 qui est perçu comme un passage en force par les opposants à la réforme des retraites est constitutionnel. C'est un outil qui est à la disposition de l'ensemble des gouvernements depuis de nombreuses années maintenant. Deuxièmement, effectivement, il a insisté sur un point, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote effectivement à l'Assemblée nationale. Certes, c'était un vote sur une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement, mais le gouvernement n'est pas tombé et il y aura une décision très prochainement de la part des sages du Conseil constitutionnel. Alors certes, on peut commenter sur le parcours, notamment politique, de certains des membres du Conseil constitutionnel proches d'Emmanuel Macron. Mais voilà, il y aura une décision des sages et le président du Conseil constitutionnel n'est pas un macroniste.
Ça veut dire qu'au soir du 14 avril, après la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République va dire voilà. Y est, c'est terminé, le chemin c'est pas fait.
Sauf si c'est censuré.
Mais a priori, ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qui va être censuré? L'entièreté du texte?
Peut-être certains.
Vous y croyez?
Certaines dispositions.
Non, mais certains constitutionnalistes le pensent.
Oui,
non,
mais moi, c'est vous, vous y croyez?
Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'index senior,
ça n'arrivera pas.
Je n'ai pas une censure globale.
S'il y a une censure d'une partie, cette partie-là sera.
Cette partie-là, Emmanuel Macron s'en accommodera. Je veux dire, c'est l'index senior. Au départ, oubliez pas, ça vient des Républicains.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs dans l'entourage de l'exécutif. Si une partie du texte est censurée, cette partie-là sera introduite dans un nouveau texte de loi, notamment le projet de loi sur le travail.
J'insiste sur ce qu'il a dit sur le Conseil constitutionnel. Il a dit qu'ils vont examiner le texte avec sagesse et calme. Et là, il veut dire, il faut lire entre les lignes, ça veut dire par rapport au brouhaha de la rue, les manifestations, la pression politique de la rue, non. Les sages de la rue de Montpensier, je crois.
C'est une grosse ficelle. C'est une grosse ficelle, mais ça marche plutôt bien. Et de toute façon, le Conseil constitutionnel constitue, pour le coup, une porte de sortie de crise pour le président de la République. C'est évident. Et ces portes de sortie, le président les cherche à chaque fois qu'il y a une crise sociale. Rappelons-nous, lorsqu'il y avait eu la crise sociale des Gilets jaunes, le président avait organisé ce faux grand débat, ce simulacre de grand débat, devant lequel il avait choisi les maires comme intermédiaires, etc. Puis il avait ouvert ses cahiers de doléances qui ensuite ont été claquemurés, dont plus personne n'a jamais entendu parler, où il a fait la Convention citoyenne sur le climat, et puis pareil, plus personne n'en a jamais entendu parler. Bon, ce sont des dénis de démocratie un peu successifs auxquels nous a habitués le président. Maintenant, il faut bien dire que ce sont là aussi des portes de sortie qui avaient été trouvées. Là, la porte de sortie, elle est plutôt institutionnelle, si je puis dire. Mais le but de cette opération, c'est effectivement de tourner la page le plus vite possible d'une séquence, pour parler comme ses communicants le font, extrêmement désastreuse pour son image.
Joseph, je vais vous laisser la parole, je voudrais juste qu'on écoute quelques réactions de manifestants qui sont venus accueillir, entre guillemets, si je puis dire, le président de la République.
Non, on n'écoute plus, on l'écoute plus en fait. On n'écoute plus. C'est terminé. Voilà. C'est un menteur, voilà, effectivement.
Faut qu'il démissionne simplement. S'il est incapable de gouverner ce monsieur, c'est tout.
Le chemin démocratique, s'il connaît un petit peu l'histoire, il sait aussi que les grandes conquêtes sociales, elles ont été faites dans la rue et sûrement pas à l'Assemblée. Donc il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir aussi, et il est dans la rue.
Bon, sauf que le président, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est quand même dans un cadre démocratique, constitutionnel, que tout est en train de se jouer. Ça n'enlève pas une forme de brutalité dans le passage de la réforme des retraites.
Au-delà de la forme de brutalité, ce qui restera, c'est que cette loi n'a pas été votée par le Parlement.
Et la motion de censure?
C'est la motion de censure. C'est que le gouvernement ne tombe pas, c'est que le Parlement ne repasse pas à l'élection. Ce qui reste dans l'opinion publique aujourd'hui, et ça va rester, ça sera toujours, mais votre loi n'a jamais été votée par le Parlement.
Ça va rester, vous dites, Joseph Tounel, et pourtant le président dit il y a les grands sujets, l'école, la santé sur lesquels nous travaillons, on fait des choses.
À chaque fois, on reviendra là-dessus, et les organisations syndicales, je ne sais pas si vous avez noté, vous avez des chiffres, les organisations syndicales voient leur nombre d'adhérents augmenter en ce moment. Et les organisations syndicales.
C'est une bonne nouvelle pour notre démocratie.
Oui, parce qu'elles sont calmes d'ailleurs. Quand ils parlent de calme, que le Conseil constitutionnel reste calme dans les beaux bureaux, c'est un peu normal. Ce qui est très bien, c'est que les organisations syndicales, on le voit, et quand il y a les manifestations, vous avez un itinéraire de délestage où ne sont pas les black blocs. L'itinéraire de délestage, il ne se passe rien. Pas un commerçant n'est tagué, pas une poubelle, etc. Il faut que les organisations syndicales continuent comme ça. Et le président de la République aura du mal, surtout que aujourd'hui on ne sait pas ce qui va se passer avec la première ministre, mais son directeur de cabinet s'en va.
Oui, mais enfin là, il lui a donné encore de nouveau une forme
Que ça part.
Sonia, ça n'est pas parce que
c'est pas,
non,
c'est pas un bon
je
ne
vais pas faire un débat sur le directeur du cabinet de Madame Borne, mais enfin là, il y a eu politiquement, il vient de lui donner, redonner sa confiance.
Oui, absolument.
Mais
les équipes s'en vont
jusqu'à nouvel ordre.
Ça n'est pas sous prétexte que le président de la République dit circuler, il n'y a rien à voir, que le traumatisme ne restera pas ancré au sein de la population française. Et là où je suis en désaccord avec vous, ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre, c'est qu'un président, ça doit unifier, ça ne doit pas parler uniquement à son électorat.
Voilà,
je suis navrée, mais dans un pays où la fracture est aussi grave, aussi importante, le but, ça n'est pas d'accentuer un peu plus les difficultés, les problématiques que vivent une partie des Français. Et se mettre des œillères, sans jeu de mots me concernant, jouer à l'aveugle, ça n'est pas bon signe, ça n'est pas aller dans le bon sens et essayer d'entendre. Il avait une réforme à faire passer, il va la faire passer, elle sera promulguée, on le sait très bien.
Vous le voyez, des moments de tension à l'image avec la gendarmerie, oui.
Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, lors de son précédent quinquennat, avait eu un regret. Un regret important, c'est qu'il n'avait pas réussi. Un regret sur lequel il avait insisté lors d'un entretien télévisé, c'est de ne pas avoir réconcilié les Français entre eux.
Voilà, ça marche.
Et je dirais qu'il n'a pas réussi à réconcilier.
Mais ça, c'est la tarte à la crème.
Il n'a pas réussi à réconcilier les Français avec leurs.
Mais les fractures sont tellement profondes que je pense que même dans 15 ans, notre président va nous dire la même chose.
Si on est honnête avec le président,
c'est aggravé.
De plus en plus, effectivement.
Mais si on est honnête avec le président de la République, les fractures, elles ne sont pas d'aujourd'hui. La fracture territoriale,
les
fractures sociales. C'est plutôt là qu'il y a un sujet, comme on dit. C'est effectivement.
Ce qui est reproché, c'est de mettre du sel sur les cicatrices aujourd'hui de notre pays. Avec une réforme des retraites dont il ne reste plus grand-chose, dont les économies fondent comme neige au soleil. C'est-à-dire tout ça pour ça.
La question, c'est est-ce que le sel sur les plaies, et je ne veux pas faire mon complotiste, ce n'est pas mon genre, mais est-ce que le sel sur les plaies, lorsque les ministres successifs ou le président de la République, par certaines phrases quand même, sur emmerder certains Français, sur la foule haineuse, sur ceux qui ne sont rien, et je pourrais faire la liste à la Prévert de tout ce qui a été dit, si tout cela résulte d'une stratégie pour cliver le pays, le diviser et pousser à ce qu'un certain nombre de Françaises et de Français soient dans une opposition de plus en plus radicale pour que le président s'incarne comme le parti de l'ordre, ou si c'est fortuit et que c'est un pur hasard pour des gens qui normalement maîtrisent bien la communication.
Écoutez ce qu'il dit, il y avait eu cette phrase, on s'en souvient, quand il avait opposé, en tous les cas, il avait fait une séparation nette entre la foule et la population, et le peuple, pour la contestation contre la réforme des retraites. Écoutons-le de nouveau.
Intéressant.
Il y a une manifestation, je crois, de 200 personnes environ qui sont ici, ce qui est normal, parce qu'on sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc, il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de ce texte aille jusqu'à son terme.
C'est-à-dire que les manifestations sont un élément, mais pas plus, dans la vision, la manière d'appréhender les choses. Emmanuel Macron, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire qu'il en fait un élément, non pas anecdotique, c'est pas du tout ce que je dis, mais un élément du contexte. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un problème.
Mais il ne change pas de stratégie. Non. Il garde toujours la même stratégie depuis le début des débats autour de cette réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on minimise la contestation sociale dans le pays. D'ailleurs, très régulièrement, lorsque l'on s'entretient avec plusieurs membres de l'entourage du président de la République, que ce soit des ministres ou des conseillers, à la veille d'une journée de mobilisation, et d'ailleurs l'une des premières grandes journées de mobilisation, on nous avouait au lendemain qu'on ne s'attendait pas à une telle ampleur. C'est-à-dire que même au sein de l'entourage du président de la République, on avait sous-estimé en quelque sorte, d'une part, l'ampleur de la mobilisation. Et ensuite, on tentait de minimiser cette dernière. On a minimisé le 49-3 et son utilisation, en disant que c'était la 11e fois qu'on utilisait le 49-3. D'ailleurs, Elisabeth Borne l'a dit de nouveau, je n'utiliserai pas le 49-3, hormis les textes budgétaires. Oui, bon, le 49-3 n'a été utilisé que dans le cadre de textes budgétaires, donc rien ne change. Et là encore, on le voit, il y a effectivement, après, le président de la République a raison, il n'y a que 200 personnes qui sont présentes dans les rues pour s'opposer de nouveau à ce texte. Mais ce sont 200
oui,
personnes.
Dans les rues de Savines-le-Lac.
Puis ça va bien au-delà. La sociale perdure dans le pays et cela va bien au-delà puisqu'il y a une contestation par procuration, celle de la population qui soutient ces mouvements.
À quoi sert, qu'est-ce qui va être décidé lors de la réunion en début de semaine prochaine avec les syndicats? Là, tout est très clair pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il faut lui reconnaître la cohérence avec lui-même par rapport à ce qu'il a dit.
Demandez à Laurent Berger. Oui. Puisque le gouvernement joue à un nouveau jeu, ce n'est plus Jacques Addy, c'est Laurent Berger Addy.
C'est pas mal.
C'est-à-dire, le gouvernement fait, entre guillemets, ce que Laurent Berger veut, puisqu'il n'a aucun soutien de poids. Le seul soutien qu'il peut avoir est celui de Laurent Berger, qu'il avait lors de la précédente réforme des retraites et qui était nécessaire. Et d'ailleurs,
heureusement
sur lequel
qu'ils ont Laurent Berger, alors, parce qu'on peut lui reconnaître qu'il tend des mains, Laurent Berger. Hein, oui. Il n'a pas cessé de proposer des solutions.
La majorité, pourquoi il y a eu une majorité?
Enfin, on voit que lui.
D'accord, il faut montrer les
pas
autres.
Pas seul. Non, mais les autres, le vous les voyez
C'est le plus gros. Mais il y a aussi petit, la CGC et la CFTC. Et à eux trois, ils font une majorité. C'est-à-dire qu'à eux trois, ils font plus de 50%. C'est-à-dire qu'à eux trois, ils ont la capacité de signer des accords. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec le MEDEF.
Par exemple, la CGT, qui va succéder à Philippe Martinez?
Là, on voit qu'il y a un front très fort de ces trois-là. Ça tangue du côté de la CGT. On ne sait pas ce que ça donnera. Il est fort probable que la CGT ne vienne pas au rendez-vous face à porte-close. Et du côté de FO, les choses ne sont pas stabilisées.
C'est bien pour ça que je vous dis qu'il y a un homme qui représente aujourd'hui les... Bah oui, mais ça ne vous plaît pas, mais c'est la réalité. Bah non, c'est Laurent Berger.
Mais non, parce que...
débat syndical, là, mais c'est la réalité politique.
Il n'est pas tout seul, ils travaillent ensemble. S'il était tout seul, il serait marginalisé.
Moi, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont arracher, qu'est-ce qu'ils peuvent arracher, alors que le cœur du réacteur nucléaire de la réforme des retraites ne changera pas.
Voilà. Ce qu'ils arracheront, entre guillemets, ce ne sera pas sur les retraites, a priori. Lors du 13h, le président de la République avait évoqué d'autres sujets à venir pour garantir plus d'équité, plus d'égalité, avant qu'il nous parle d'ailleurs de son triptyque et notamment du plein emploi. Mais en tout cas, c'est peut-être plus là qu'il y a un espace de négociation. Mais le dossier de la réforme des retraites, là on l'a recompris aujourd'hui ce midi grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron, le dossier réforme des retraites si je puis dire, lui il est terminé et il sera définitivement terminé lorsque le Conseil constitutionnel aura pris sa décision. Par conséquent, les syndicats, moi je peux vous donner mon billet, ils vont ressortir de cette réunion déçus. Alors est-ce que c'est une stratégie de la part de M. Berger de solliciter ou en tout cas d'aller au-devant de cette discussion avec Mme Borne?
M. Berger a besoin aussi, j'allais dire, ça croche à quelque chose. Nous sommes quand même dans un mouvement qui est en train, qu'on le veuille ou pas, il y a une démobilisation, une décrue, et il appelle déjà... Il est en train de muter, donc il a besoin aussi de chercher pour lui-même une porte de sortie, parce que là, vous pouvez multiplier les mobilisations, l'exécutif ne va pas changer de position.
C'est ça qui est dramatique, le message qui est envoyé.
Parce que ça va être juste pour le symbole, pour l'image médiatique. Alors, il n'y aura pas de dialogue et de négociation.
Les syndicats, c'est les chiffres qui sortent. Vous avez vu le chiffre hier, pour les retraites du privé, c'est pas un déficit, c'est de plus 5 et quelques milliards, ce qui n'est pas neutre. L'année d'avant, c'était plus 2 et quelques milliards.
Ils ne vont pas convaincre le gouvernement sur le fait
mais dans l'opinion publique, quand vous expliquez...
Mais l'opinion, elle est convaincue en grande majorité.
Oui, ça l'aide à rester convaincue. Parce que l'opinion publique, elle peut changer. Bon. Par rapport aux communications gouvernementales, les chiffres bruts, plus 5 et quelques milliards pour les salariés du privé, c'est très difficile pour le gouvernement.
On va marquer une pause, on parlera de ce qu'a dit le président sur Sainte-Soline avec des mots forts. Des gens sont venus faire la guerre. Juste encore un mot sur le moment de clarification politique à l'Assemblée nationale avec le vote sur la motion de censure. Bon, clarification, ça peut aussi jouer pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'alliés aujourd'hui parce qu'ils veulent élargir la majorité, mais vers qui?
Mais le meilleur atout d'Emmanuel Macron, ce sont ses opposants.
Ah oui, c'est
C'est-à-dire qu'effectivement, il dispose d'une majorité relative, mais il n'y a pas de majorité alternative dans le pays. Et puisqu'il n'y a aucune majorité alternative, il explique donc ceci: je suis légitime à proposer les réformes comme celle de la réforme des retraites et à la faire, entre guillemets, voter, certes, grâce à une motion de censure qui n'a pas été adoptée par le Parlement, mais elle a été votée d'une certaine manière. Et il s'appuie là-dessus, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des opposants qui ne sont pas capables de s'entendre entre eux.
C'est ça le principal atout qu'il a. Vous l'avez dit, le principal atout d'Emmanuel Macron, c'est l'opposition. L'opposition, elle est absolument irréconciliable. Vous avez d'un côté la NUPES, de l'autre côté le Rassemblement national. Ce sont les deux plus grandes forces politiques d'opposition à l'Assemblée nationale. La seule ouverture possible, qui est logique en plus idéologiquement en matière de cohérence, et ce sont eux d'ailleurs qui ont fait en sorte que cette motion n'est pas passée, ce sont les Républicains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a missionné, semble-t-il, certains ministres, je pense le ministre des Relations avec le Parlement, ce serait le plus logique, pour essayer d'élargir sa majorité. Alors peut-être que ce n'est qu'une... qu'une annonce, qu'un effet de com, avant peut-être une dissolution.
On va en parler.
Parce qu'il faut à un moment trouver une majorité. Là, c'est joué à 9 voix quand même.
Une majorité, il faut stopper aussi les violences et les scènes de chaos hein, qu'on a observées à Sainte-Soline. Je vous rappelle qu'il y a un appel à un rassemblement tout à l'heure en début de soirée devant les préfectures par le collectif Le soulèvement de la terre. Voilà, effectivement, collectif d'ultra-gauche et le président qui vient de déclarer pour Sainte-Soline que des gens sont venus faire la guerre. On va en parler à tout de suite. On continue d'analyser la prise de parole d'Emmanuel Macron, mais tout d'abord les titres. CNews Info, Audrey Berthaud.
Les salaires des joueurs de Ligue 1 dévoilés dans le journal L'Équipe. Selon les estimations, parmi les 10 joueurs les mieux payés du championnat, on retrouve 10 joueurs du PSG. En tête, Kylian Mbappé avec un salaire mensuel brut de 6 millions d'euros, loin devant Neymar et Messi, qui toucheraient eux entre 3 et 4 millions par mois. Un an et demi après la publication de la loi contre le séparatisme, la secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Backès, dévoile un premier bilan. Plus de 3000 opérations de contrôle ont été menées en 2022. 187 fermetures d'établissements ont été opérées. La loi a permis de désinhiber l'administration et de lui donner des outils pour s'attaquer à tout ce qui fait le lit du séparatisme, a précisé la ministre. Enfin, le pape François va mieux et a repris le travail. Ce sont les dernières informations concernant le pape. Il a été hospitalisé hier pour une infection respiratoire à l'âge de 86 ans. Il a passé une bonne nuit, selon le Vatican, à l'hôpital Gemelli de Rome. Son état de santé s'améliore donc progressivement. Et les traitements prévus se poursuivent toujours selon le Vatican.
Merci Audrey pour ces nouvelles rassurantes. Oui. On revient sur le plan politique et social en France.
À sa sainteté.
Évidemment, évidemment. Sur le plan politique et social, la prise de parole, les réponses d'Emmanuel Macron tout à l'heure à Savine-Lac, donc sur la contestation par rapport à la réforme des retraites. En gros, tout doit poursuivre son chemin démocratique, comme l'a dit Emmanuel Macron. Alors, sur Sainte-Soline, on va s'y arrêter. Vous savez qu'il y a deux polémiques après les scènes de chaos à Sainte-Soline. Il y a une polémique autour de l'intervention des secours et puis il y a une polémique sur l'utilisation de certaines armes par les forces de l'ordre. Sur les secours, Emmanuel Macron a estimé que la polémique a été levée par le SAMU, puisque le SAMU a affirmé qu'ils ont pu avoir accès à ces blessés, compte tenu d'un contexte évidemment de chaos très prégnant. On va écouter Emmanuel Macron qui affirme que des gens sont venus faire la guerre autour de ces méga-bassines.
Il s'agit justement d'un projet qui correspond aux critères que nous évoquions tout à l'heure. On en a besoin pour justement avancer sur les questions d'eau. Il faut le faire avec des concertations. Elles ont eu lieu avec beaucoup de respect pour les parties prenantes. Et c'est aussi pour ça que je remercie tous nos élus de mener ce travail. Qu'il y ait des contestations, c'est une chose. Rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs, à Mel, le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a, chez certains, une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement claires sur ce sujet. Il n'y a rien qui justifie la violence dans une société démocratique.
Alors là, évidemment, bon entendeur, il parle de la France insoumise, hein, mais faire la guerre, et là, Florian Tardif, le président, l'a fait référence aussi à l'arsenal qui a été retrouvé par les gendarmes. On rappelle, hein, quand même, il y avait des machettes, il y avait des bombes incendiaires artisanales, des haches, des couteaux, bon, bref, etc.
Il a raison. Mais il y a toute une chaîne de commandement, même, au sein des Black Blocs, c'est-à-dire qu'il y a des capitaines avec des... militants qui reçoivent des ordres de ces mêmes personnes. Il y a même des camps d'entraînement avant justement l'organisation de ces manifestations sauvages qui sont organisées, qui sont démantelées. Parfois, deux camps d'entraînement ont été récemment démantelés par les services du ministère de l'Intérieur. Donc oui, et on retrouve avant même le début de ces manifestations, que ce soit donc sur les manifestants eux-mêmes ou aux alentours du lieu de la manifestation, des engins qui sont des engins type guerrier, c'est-à-dire des haches.
Il n'y a pas de débat. Mais peut-être aurait-il pu avoir peut-être un mot, parce qu'il y a aussi deux blessés dans un état grave, quand même, entre la vie et la mort. Un en particulier dans une situation critique. Bon. Parce que rien n'est justifié qu'on en arrive là aussi.
Non, mais l'emploi du mot guerre, alors loin de moi, vraiment, très loin de moi.
Mais l'emploi dans tous les.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Loin de moi l'idée de disculper. Absolument. Loin de moi l'idée de disculper ces violents qui n'ont absolument aucune excuse pour s'en prendre aux forces de l'ordre et pour faire ce qu'ils font. Néanmoins, l'usage à tort et à travers du mot guerre, la guerre contre le Covid, la fameuse grande guerre économique de M. Bruno Le Maire face à Poutine qui a tremblé et c'est rien du tout. Bon, donc toutes ces guerres successives, ça c'est comme le mot révolution, on va faire une révolution de ceci, une révolution de cela. Ça dévoile quand même un rapport à la communication un peu malsain. Une guerre, c'est pas vraiment ça. Une guerre, c'est bien plus grave. Et Dieu merci, il n'y a pas de guerre en France. Et j'espère qu'il n'y en aura jamais.
Non, mais il y a une guerre à nos portes en Europe. Et c'est vrai que l'emploi du mot.
Là, ici, mais c'est là que la nuance est importante. C'est qu'effectivement, il y a une guerre en Europe à nos portes. Il y a des gens qui sont des ennemis de la France et qui, à l'étranger, veulent faire la guerre à la France. Le djihad, par exemple, était une guerre. Voilà. Il y a des choses qui sont des guerres. Maintenant, dire guerre parce qu'il y a effectivement les factions et les factieux, déjà, je trouvais ça un peu plus adapté concernant les violents qui ressemblent finalement à ces mouvements antiparlementaires, antiparlementaristes, anti-républiques qui vont venir fiche la pagaille, déstabiliser l'État pour créer une forme de chaos qui préfigurerait, selon eux, un nouveau monde. Si on veut être précis, c'est plutôt ça. L'emploi du mot guerre, franchement...
Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur, mais pas cette fois-ci, avait parlé d'éco-terrorisme.
C'est comme ce mot d'éco-terrorisme, voilà. Ce mot, je ne trouvais pas adapté.
Éric Ciotti a parlé des terrorismes d'extrême-gauche. Éric Ciotti, dans Le Figaro, a dénoncé...
C'est la violence. Oui. On voit très bien quels sont les violents, parce que quand on voit les images, les camions de gendarmerie qui flambent, c'est bien qu'ils ont été attaqués par des gens violents. Je suis d'accord, c'est pas le terme de guerre. C'est une violence inacceptable. On voit qui est l'agresseur. Il y a des victimes et les violents recherchent des victimes pour communiquer en disant « Regardez ». Et parce qu'effectivement, il y a deux personnes qui souffrent, il y a des familles qui souffrent derrière. C'est pour ça qu'il faut arrêter ces violents, mais le plus tôt possible.
Mais arrêtez,
je pense aussi aux gendarmes. C'est terrifiant. Et quand on nous dit, moi je ne sais pas ce qu'ils ont employé, est-ce que c'était véritablement adapté, mais que faire? Ils les ont laissés approcher, ça veut bien dire que la violence légitime des gendarmes, ça n'a pas été une violence absolue.
Écoutez, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le lundi 27 mars, donc là récemment, Gérald Darmanin a affirmé que des armes de guerre n'ont pas été utilisées à Sainte-Soline, voulant couper court aux rumeurs, à ce qui circulait, on va dire, sur les réseaux sociaux. Mais la classification, pardonnez-moi, entre armes de guerre et armes intermédiaires, elle est plus complexe. Oui. On vous a préparé à une sorte de classification selon le Code de sécurité intérieure. On va pouvoir le voir dans quelques instants. Et puis, on va voir que certaines armes qui peuvent être classées aujourd'hui comme armes de guerre, entre guillemets, ont été utilisées par la gendarmerie. Maintenant, on peut estimer qu'en face, il y avait aussi des armes de guerre par destination.
Je trouve que c'est un peu hors sujet. Enfin, pardonnez-moi, mais en fait...
Mais le ministre de l'Intérieur va devoir s'en expliquer à l'Assemblée nationale.
Si le ministre de l'Intérieur a menti, a fait une erreur, s'est trompé. Enfin, d'accord, mais le sujet, pardonnez-moi, c'est de savoir... Pour moi, avant de qualifier tel ou tel matériel, c'est de savoir est-ce que ce matériel est adapté à la situation, est-ce qu'il est adapté aux circonstances. Je pose la question parce que je n'ai pas la réponse, mais il y a quand même un certain nombre d'indices, ou en tout cas de faits accablants, je trouve. C'est-à-dire que vous avez quand même des manifestants qui arrivent, qui viennent armés, et pas petitement armés. Hein. On a vu des dizaines de couteaux, des haches, etc., même des projectiles un peu fabriqués. Bon, bref. En fait, la gendarmerie doit s'adapter et doit évidemment s'armer en fonction de la menace, et elle doit utiliser la violence, puisqu'on parle de fameuse violence policière, en proportion et en fonction du danger. Une fois qu'on a posé ça, on est tranquillement assis sur notre plateau, ça a l'air d'être facile. Maintenant, quand ils sont sur le terrain, avec une pression, avec une tension, pendant des heures, et bien effectivement, il y a des moments où ça peut un petit peu déraper. Et quand ça dérape, et bien il y a une enquête, et après il y a des sanctions. On n'en est pas encore là.
Alors là, il y a une enquête pour savoir en tous les cas ce qui s'est passé par rapport à ces deux personnes qui sont, pour l'une en tous les cas, c'est sûr, malheureusement, entre la vie et la mort. Mais c'est vrai que juger de la proportionnalité, comme on dit, ça va être très compliqué.
Bien sûr, moi j'emploierais plutôt le terme de guérilla. Évidemment que ces black blocs sont anticapitalistes, anti-police, sont là une fois de plus pour mettre le chaos dans nos démocraties. Mais n'oublions pas, et c'est parfaitement la dissolution, vrai ce que vous disiez, Sonia.
Est-ce que ça va être la solution ? La dissolution du
collectif ?
Oui, ça peut être un message envoyé qui va dans le bon sens. Peut-être pour d'autres groupuscules de ce genre-là. Mais je ne suis pas sûre que ça les arrêtera, puisqu'ils ont de toute manière un leitmotiv. Ils sont déterminés. Comme le rappelait Florian, ils vont même dans des camps d'entraînement. Ils sont extrêmement organisés. Ce sont des intermondialistes qui proviennent du monde entier. Mais ce qui est aussi terrible, en dehors évidemment de ces personnes dont le pronostic vital est engagé, et ça on ne peut pas s'en satisfaire, je pense aux familles, ce sont des activistes certes, mais ils ne méritaient sans doute pas ça, évidemment. Et les gendarmes sont évidemment sous pression, comme tout le monde le rappelle aussi. Donc on ne peut pas se satisfaire de la violence, quelle qu'elle soit. Là-dessus, on est tous d'accord. Quand on a fait ce constat, que dit-on de plus ? Qu'on ne parle pas de la cause écolo ? Parce qu'une fois de plus, cela phagocyte en fait toutes ces violences.
Vous croyez que la lutte anti-bassine est une lutte écologique, mais c'est ça la vraie question.
Bah, mais auprès de certains agriculteurs, oui. Auprès de certains agriculteurs, oui.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une division
de la cause pour laquelle beaucoup de pacifiques étaient aussi présents.
Mais là, si on s'arrête uniquement sur la question de la violence, et je crois effectivement que c'est un sujet qui est à l'étude. En tout cas, le ministre Gérald Darmanin a dit qu'il allait étudier la possibilité de dissoudre ici le groupement, moi aussi j'ai perdu le nom,
Soulèvement
de la Terre, qui est semble-t-il, parce que je ne le connais pas, mais effectivement un groupement d'extrême gauche.
Pardonnez-moi, sur leur site, je suis allé voir les Soulèvements de la Terre, ils disent qu'il faut faire avancer la cause par tous les moyens.
Donc, c'est amusant, par tous les moyens. C'est drôle, sans le savoir, ils citent du Maurras. Charles Maurras, qui est à l'autre opposé, disait « nous utiliserons tous les moyens ». Même l'ego. Oui. Vous voyez, c'est
amusant comme quoi on leur pardonne à eux assez facilement. Mais là, je pense que c'est tous les moyens, même l'éco-sabotage et même la violence.
Bah voilà, c'est un peu ça ce que ça veut dire. Mais en revanche, là, il y a des armes juridiques pour faire face.
Je ne sais pas si la dissolution, mais est-ce que ça empêchera de tels rassemblements ? La question, c'est est-ce qu'au nom d'une cause que certains estiment juste, que vous pouvez estimer illégitime, est-ce que la violence peut être un
moyen ? En droit, non. En droit, non.
Mais certains estiment qu'on ne fera parler de certaines causes qu'avec la violence.
Bien sûr.
Se mettre dans la psychologie de ces gens. Ces gens-là se voient, vous allez peut-être être choqués, mais ces gens-là se voient comme des résistants face à un ordre établi terrible. Ils font des parallèles parfois avec 39-45, ils se voient comme des résistants qui sont obligés d'agir de façon violente, tellement le système est terrible, tellement ils sont face à un fascisme terrible. Vous voyez ? Non, mais il faut essayer de comprendre un peu dans quel effet d'entraînement.
Dans quelle idéologie
ils sont. Dans quelle idéologie ils sont. Et cette idéologie-là, on a l'air de découvrir la Lune aujourd'hui parce qu'ils sont visibles. Mais cette idéologie et ces groupements, ils existent depuis fort longtemps, quasiment depuis la fin du 19e siècle. Il y a une extrême gauche, des fois d'obédience anarchiste, des fois communiste révolutionnaire, il y a plein de nuances, qui, effectivement, prend la violence comme moyen d'action, avec parfois, ça va jusqu'à Action Directe, le groupe Action Directe, ça va jusqu'à le président Sadi Carnot à la fin du 19e siècle qui avait été tué par un anarchiste italien. Donc, il y a toutes sortes de choses qui...
Mais comment on y répond ? Parce que moi, la dissolution, très bien, mais vous avez aujourd'hui des élus qui sont menacés, qui sont invectivés.
Menaces contre les élus, ce n'est pas forcément les mêmes.
C'est moins organisé. Je ne sais pas s'il faut faire un. Je vais dire, entre les violents contre la réforme des retraites et les violents à Sainte-Soline, moi, je ne vois pas une muraille de Chine.
Mais les personnes qui vont aller mettre des parpaings devant une permanence de députés en région.
C'est l'échelle à Sainte-Soline, on est quand même sur une échelle où il n'y a vraiment quasiment que des radicaux.
Oui, je suis d'accord.
Pardonnez-moi, quand vous balancez des pavés en marge des cortèges et quand.
Ça peut être un peu les mêmes.
Oui, en marge, mais vous le dites vous-même en marge des cortèges. On peut le dire, les manifestations. Je ne parle pas des manifestations du soir, les manifestations qui ont eu lieu à l'occasion des journées de mobilisation.
Non, mais il ne faut pas les amalgamer.
On a vu dans les cortèges la réforme des retraites, vous en retrouvez ici.
Je suis d'accord. À Sainte-Soline, vous n'aviez quasiment que ça.
Oui, mais
à Sainte-Soline, il n'y a que ça. Et il faudrait que le politique s'empare un peu de ce sujet. Je rappelle qu'il s'est tenu, il y a quelques jours, hier en l'occurrence, à l'Assemblée nationale, une commission qui finalement a été enterrée à l'initiative de la NUPES contre les violences politiques. Et quelles violences politiques ? Les violences politiques d'extrême droite. Moi, je n'ai jamais vu des manifestations d'extrême droite de ce type-là qui arrivent, qui usent la violence comme ça pour faire avancer leur cause. Je le disais la dernière fois, par exemple, contre l'installation d'un camp de migrants.
Et
tout le monde
hurlerait. Vous savez qui a repris votre comparaison ?
Le Premier ministre, Édouard Philippe.
Ah oui, et d'ailleurs, j'hésitais. Merci, effectivement. Et il l'a cité sur un plateau de télévision que je ne citerai pas, mais très bien pensant et très bobo. Et ils étaient un petit peu mal à l'aise, effectivement, parce qu'il leur a dit, vous permettrez de le rappeler, si ces manifestations avaient eu lieu contre l'installation d'un camp de migrants, vous tous ici, journalistes bien pensants, vous seriez tués. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la légalité, c'est la légitimité de la cause. Et c'est au nom de ça
que vous pardonnez les excès. Voilà. Mmh. Eh bien, ça, non, on ne doit pas
le
pardonner
et on doit dissoudre ces groupements et les combattre. Il y a une partie d'une jeune de la génération chez les plus jeunes qui se disent aujourd'hui qu'on ne peut avancer dans ce pays qu'avec la violence et qui ont vu qu'avec la les rassemblements des Gilets jaunes, ils ont obtenu des choses à 17 après la guerre.
C'est là que le signal du pouvoir est préoccupant.
La violence,
il faut réaffirmer qu'en démocratie, et nous sommes en démocratie imparfaite, d'accord, mais nous sommes en démocratie, la violence est inacceptable en politique. Point. Mais il y a des enseignants, et là, il y a une responsabilité.
Et vous êtes clair, mais pas tout le monde. Et moi, j'ai posé la question à certains...
Et moi, je suis très choqué quand je vois des enseignants, c'est-à-dire des gens qui ont une responsabilité, qui sont payés par l'État, et qui, dans leur enseignement, viennent dire, officiellement, c'est la violence qui est légitime.
Qui a dit ça?
Par exemple, vous avez un enseignant qui est professeur au CNRS qui vient dire que quand Anne Hidalgo, qui n'est pas forcément une amie, quand Anne Hidalgo fait un meeting, il faut venir l'interrompre. Il faut venir lui couper la parole. Il est enseignant. Et il y en a d'autres. Ça, c'est inacceptable.
Vous l'avez entendu, hein, si vous me le dites, parce que là, je ne vais pas...
Bien sûr. Il a fait un meeting à la Bourse.
Il faut condamner tout cela, évidemment, parce que c'est...
Il faut commencer par ces élites qui mettent dans la tête, ces élites intellectuelles ou intellectualistes, qui mettent dans la tête de jeunes générations qui veulent un peu la révolte bousculer, c'est normal, que la violence est légitime.
Parce que là, l'objectif derrière tout cela, c'est
quoi ? Regardez dans les arrestations le nombre d'enseignants qui sont arrêtés. Là.
Vous avez des informations sur ce sujet, moi je ne les ai pas.
Vous envoyez, et on nous dit...
Non mais ce qui est sûr, c'est que la violence ne peut pas être à géométrie variable. Donc, voilà. Mais vous parlez des élites, hein. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Voyez les réseaux sociaux.
Le discours anti-élite, oui, ça dépend de quelles élites on parle.
Pas du tout.
Parce que déjà dans un contexte où il y a quand même des violences contre
qui vous voulez, qui enseigne ce que vous voulez. Mais il y a les réseaux sociaux. Vous avez un paquet de complotistes aussi. Il n'y a pas besoin de parler d'adultes en présence.
Comment vous n'allez pas fermer les réseaux sociaux, fort heureusement, dans ce pays, et qu'on en est juste à pouvoir dissoudre déjà un groupuscule. Moi, la question, c'est une question de plus presque intellectuelle. C'est-à-dire, quel contre-discours vous pouvez opposer aujourd'hui à des jeunes qui se disent « ça n'avance pas qu'avec la violence, puisque le 49-3 est une violence politique ».
Mais là, Sonia, c'est là que le gouvernement et que le président de la République ont... une responsabilité dans le fait d'avoir réveillé tous ces excités et ces violents, parce que précisément, ils donnent le message à la population que des mobilisations qui regroupent plusieurs millions de personnes, jour après jour, semaine après semaine, comme ça a pu être le cas, là, pour la réforme des retraites, ça ne sert à rien. Ne vous mobilisez pas, les gens, avec les syndicalistes, sous une bannière, avec un bon message, parce qu'on ne vous écoutera pas. Par conséquent, pour beaucoup de gens, on se dit, eh bien, voyez, le précédent des Gilets jaunes, là aussi, fait beaucoup de mal. Pendant les Gilets jaunes, on a obtenu des augmentations, il y a eu une prime qui a été délivrée, la mesure a été retirée tout de suite sur les 80 km/h, ça a été revenu dans certains départements, mais enfin, la mesure sur le carburant. Donc, à un moment donné, si vous voulez, ce qui est tragique dans ce pays,
le verre est dans le fruit pour vous, parce qu'on a déjà cédé. C'est pas le mot, d'ailleurs, on a répondu revendications.
Le signal, c'est que lorsqu'on revendique en saccageant l'Arc de Triomphe et qu'on défile jour après jour sur les Champs-Élysées, on obtient quelque chose que les syndicats, pacifiquement, ne parviennent pas à obtenir. Pardonnez-moi, il vaudrait mieux céder, entre guillemets, aux syndicats et ouvrir les portes à la négociation, dire, bon, écoutez, j'ai pris acte, je fais un 20h, il y avait 3,5 millions de personnes dans la rue, 3,5 millions et 70% des gens dans les enquêtes d'opinion, je prends la mesure de ce qui se passe. Si vous faites la même chose quand les gens, ils brûlent des voitures, pardonnez-moi, le message, il n'est pas bon.
C'est tout à fait exact et on peut revenir aux propos du président de la République qui sont intéressants justement à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, la différence entre le peuple et la foule. La foule peut devenir peuple, mais le peuple peut devenir foule. Et on en a un exemple ici, c'est-à-dire que le peuple est souverain et décide grâce aux outils qui ont été mis en place et respecte les lois. Le peuple devient foule lorsqu'il veut exprimer aussi un désir. Là, par exemple, un désir d'écologie. On peut en discuter.
Oui, d'écologisme, on va dire.
D'écologisme, mais ne respecte plus les lois. C'est la grande différence entre le peuple et la foule.
Mais heureusement qu'il y a cette distinction. Sinon,
peut-être le même, mais il n'y a plus de respect des lois.
S'il n'y a plus cette distinction, ça veut dire que demain, la force, le monopole de la force légitime, c'est au premier groupe qui va s'arroger cette...
Ça devient l'anarchie.
Mais c'est bien là le gouvernement des milices. Où on bascule de la démocratie à l'opocratie, c'est-à-dire le pouvoir par la foule.
C'est qu'il met face à leur responsabilité tous ceux qui n'arrivent pas...
Il a raison sur le plan du droit. Et je suis d'accord
même
avec
sur la, le plan philosophie. De la philosophie de la morale et de tout, et de la démocratie.
Si vous voulez, enfin, moi, je m'arrête au plan du droit. C'est des personnes qui provoquent des manifestations armées et qui arrivent armées à l'occasion de manifestations, en l'occurrence, peuvent encourir la dissolution. Et derrière, il y a tout un volet pénal. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas approuvé évidemment l'action d'Emmanuel Macron au niveau de l'État, mais il faut qu'Emmanuel Macron lui comprenne aussi qu'il a une responsabilité dans ces débordements, qu'il a une responsabilité dans cette montée de la tension. Vous parlez de la jeunesse tout à l'heure. Vous disiez que la jeunesse, j'aime pas cette expression, une partie de la jeunesse, des jeunes en l'occurrence, ne comprenait pas effectivement que dans cette République, dans cette démocratie, on ne peut se faire entendre qu'à travers la force. Eh bien, c'est au président de la République et c'est aux politiques, par exemple, d'utiliser un référendum, par exemple, de ne pas passer par une motion de censure et de laisser le Parlement s'exprimer. Si le Parlement s'était exprimé, nous n'aurions pas eu ce type de débordement. Je ne parle pas de Sainte-Soline.
Bon, donc le pourrissement pour vous, c'est partagé, si je puis dire.
Oui, c'est partagé. Ça ne veut pas dire qu'on approuve la violence.
Eh bien, on va voir quelle sera la sortie de crise, s'il y en a une. Merci, en tout cas, c'était un plaisir de vous écouter, de vous avoir autour de ce plateau. À très bientôt et restez avec nous. Pardonnez-moi, Florian.
Plaisir partagé.
Bien évidemment.
Comme toujours.
Alors, le plaisir se poursuit, si je puis dire, avec Lily Mathias pour la suite de vos émissions. Bel après-midi à vous.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.